Je vous propose de faire connaissance avec Chloé Vary et Lucie Albrecht, deux jeunes autrices et illustratrices qui ont plein de choses à dire sur cet univers et sur leur univers.
On est au spin-off au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Donc là, on est samedi, on a un petit stand, on vend une petite chose. Moi, je m'appelle Lucie Albrecht, je suis autrice de bande dessinée, toute jeune autrice. J'ai sorti ma première bande dessinée il y a 3 mois. Et à côté, je suis illustratrice. Et voilà, j'ai un stand avec Chloé.
Bonjour, donc ouais, moi c'est Chloé Vary. Et pareil que Lucie, je suis jeune autrice de bande dessinée. Et en fait, toutes les deux, on a fait nos études ensemble. Et depuis qu'on est sorties, on s'est un peu suivies. On a décidé de travailler ensemble, d'échanger sur nos projets, d'avoir comme ça ce regard de recul critique pour pouvoir avancer dans nos projets respectifs. Et là, au spin-off, c'est la 2e année qu'on a une petite table et qu'on présente nos petits fanzines sur lesquels on s'éclate un peu à décliner des motifs, des personnages. Voilà, toujours en lien avec nos univers et nos bandes dessinées.
Alors avant qu'on s'intéresse à vos univers et à vos bandes dessinées, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un fanzine ?
Alors, un fanzine, enfin, c'est vrai que je l'interprète peut-être un peu trop librement, mais pour moi, c'est un objet dans lequel je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. J'ai zéro contrainte d'écriture, de dessin et de forme. Et j'essaye d'exploiter le papier et les techniques d'impression au maximum. Donc, ça peut aller de la RISO à l'impression numérique basique, au pliage, au découpage. Ça va aussi jusqu'à la reliure. Ce qui me plaît dans le fanzine, c'est le côté finition et le fait d'être maître de ton ouvrage ou de ton objet du début à la fin.
La même vision ?
Un petit peu, ouais. Ben oui, complètement. Après, je vais juste compléter. Pour moi, c'est quelque chose de déjà fait main. Un peu en édition limitée, on n'a pas beaucoup d'exemplaires. Tout est fait à la main, il y a des petits défauts et c'est ça qui donne le charme à la chose. Et le fanzine, si je ne me trompe pas, au début, c'était des petits magazines vendus un peu sous le manteau. Ça vient un peu des États-Unis et tout. Ils reprenaient des personnages connus de bande dessinée, par exemple Mickey. Ils en faisaient des BD un petit peu de cul, des choses comme ça. Et du coup, c'était un peu des fanarts où ils refaisaient des histoires avec des personnages existants, d'où le nom fanzine. Ça ressemble à un magazine et en même temps un truc un peu de fan qu'on réinterprète. Et voilà. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on fait. Sans reprendre des personnages, on écrit nos histoires et c'est assez libre.
Et du coup, vous le réappropriez comment, vous, le fanzine et cette publication, en fait ?
Alors pour ma part, j'ai repris un de mes personnages dans ma bande dessinée et je me suis amusée à la décliner en différentes postures et selon comment tu plies l'objet, donc l'objet s'appelle le Barbarap en référence à son nom Barbara et rap parce que je me suis un peu amusée à écrire quelques couplets. Donc voilà, il manque le côté sonore pour que le truc soit vraiment entier, mais voilà, du coup je me suis amusée à décliner sa personnalité dans une espèce de projection comme ça un peu complètement imaginaire et imaginée, et du coup voilà, c'est un moyen de détourner le personnage et de le faire exister ailleurs que dans la BD.
Ouais, en vrai il y a plusieurs façons d'aborder le fanzine, soit en écrivant une histoire, soit justement en se permettant des libertés. Là, toi, tu as fait un petit peu des choses avec du texte assez poétique, même de la musique et des pliages. C'est le moment d'essayer des choses. Moi, là, j'ai un petit fanzine qui s'appelle Étoiles et Amours. Donc, c'est quelque chose que j'avais. J'étais partie du challenge Inktober. Donc, en octobre, tous les jours, un mot est imposé. Et on doit faire un dessin à l'encre en fonction de ce mot. Et je voulais pas juste faire de l'illustration comme ça, je voulais en faire une BD et écrire une histoire avec les mots imposés. J'essaie de faire une suite et du coup, ça parle de rupture amoureuse et voilà.
Inktober, c'est un challenge entre illustrateurs qui se passe surtout sur Instagram à la base, c'est ça, hein ?
Ouais, c'est ça.
Et alors, du coup, si on revient un petit peu sur vos univers, est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement ?
Ouais, c'est difficile de mettre des mots.
Bah, je dirais... Chloé qui parle alors.
Ouais, c'est Chloé. Du coup, mon univers, je le décrirais peut-être un peu comme un peu coloré, un peu pop. J'aime bien mixer beaucoup de couleurs. J'aime utiliser des techniques comme le feutre, le crayon, et pourquoi pas les reproduire en rhizographie et en sérigraphie aussi. Voilà, j'aime que ça pète en fait, et j'aime bien explorer un peu les formes de pliage et expérimenter des objets un peu différents, dans le sens où c'est peut-être pas juste un livre page après page, mais voilà, peut-être des choses à manipuler aussi. Voilà, et après il y a aussi dans la mise en page, Lucie disait tout à l'heure que j'essayais un peu les poèmes et la BD. Du coup voilà, j'essaye de mêler différents moyens d'expression et je sais pas, d'en faire un truc à moi, genre voilà.
Alors moi, contrairement à Chloé, mon univers est très peu coloré. Je fais beaucoup de noir et blanc. Je joue beaucoup avec la déstructuration de la page, et même quand je fais une illustration, il y a beaucoup ce côté bande dessinée qui revient, des petites cases, des petits zooms, etc. Et j'aime beaucoup aussi faire de la peinture avec des aplats. Ça reste, s'il y a de la couleur, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt niveau de gris, noir et blanc. Et en tout cas, je fais toujours des choses qui se passent dans la vraie vie. Les sujets de société, l'adolescence, le rapport au corps, c'est des trucs qui m'inspirent beaucoup. Voilà. Parce que peut-être que... Ah, j'en sais rien du tout, en fait. Je trouve ça intéressant, déjà, les choses qui se passent dans la vraie vie, auxquelles on peut se comparer et tout. Peut-être que parce que, naturellement, j'étais plus attirée par ça, dans les BD que j'achète, dans mes lectures, ou voilà. Et tout ce qui est, ouais, l'adolescence, rapport au corps et tout, c'est des choses qui me parlent, parce que forcément, t'as un petit peu des questionnements et c'est des choses que t'as vécues, donc tu te sens légitime d'en parler. Et voilà, c'est, ouais, c'est naturel, quoi.
Et donc là, vous avez écrit chacune une BD, plusieurs BD ?
Ouais. Du coup, j'ai écrit deux bandes dessinées. La première, c'était dans le cadre de mon projet de diplôme. Donc, c'est une BD qui a trouvé preneur assez... c'était un peu surprenant parce que c'était pas fait pour, quoi. Mais bon, ça a plu, donc ça s'est fait. Et la deuxième, donc, ça s'appelle « Conduite interdite ». Voilà, donc c'était l'histoire, en fait, ça reprenait un fait historique, c'était la manifestation des Saoudiennes au volant en 1990, et en fait c'était une lutte qui m'a vraiment touchée, et voilà, j'ai décidé de raconter cette première manifestation en y ajoutant de la fiction. Et la deuxième, du coup, ça s'appelle Saison des Roses, et c'est quelque chose que... Enfin, ça part d'un contexte de banlieue où j'ai un peu grandi, où avec un personnage toujours en quête d'émancipation, et ça parle de foot féminin, c'est un environnement assez masculin, et j'avais envie de faire évoluer mon personnage là-dedans, pour qu'elle vienne tout défoncer dans les a priori et les stéréotypes, quoi, qu'on a un peu tous en tête. Donc voilà, et c'était chez Flubble Up, donc une deuxième expérience d'édition avec une maison indépendante, une super expérience parce que très chaleureuse et une bienveillance dans l'envie de faire des livres où tu sens que c'est pour eux un vrai, comment dire, une vraie passion, quoi. Et ils en font peu par an, donc ils portent vraiment les livres qui sortent, et c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer des gens qui travaillent de cette manière-là encore de nos jours, et qui en plus de ça militent pour que les auteurs aient leur juste place et gagnent un juste salaire, parce que c'est une maison d'édition où les éditeurs sont aussi auteurs, donc ils ont cette double casquette et ils essayent vraiment de toujours valoriser les auteurs, quitte à même être un peu avant-gardiste dans le sens où ils commencent à rémunérer quelques séances de dédicaces, ce qui est genre hyper rare, donc voilà.
On va revenir à cet aspect après, on va laisser Lucie présenter sa BD un petit peu.
Du coup, moi, c'était ma première bande dessinée qui est sortie il y a 3 mois, ça s'appelle Bruit de couloir, aux éditions Vite Cocagne. Donc, c'est l'histoire de 4 adolescents dans un internat, ça parle d'adolescence en général, de leurs relations amicales, du rapport au corps, à la sexualité, et ça parle de harcèlement scolaire aussi. Comment un personnage qui a été harcelé peut devenir le bourreau. Et voilà. En fait, ça se passe dans un internat parce qu'elles sont un petit peu en huis clos, elles font un petit peu leur éducation entre elles et il n'y a pas de présence adulte. Et je trouvais ça intéressant, les questionnements qu'on peut avoir quand on est ado. Voilà, donc c'est sorti il y a 3 mois, c'est la première, c'est en noir et blanc.
Il y a des nouveaux projets.
Et il y a des nouveaux projets en cours. Après, c'est pas encore très officiel, donc voilà.
Des thématiques très actuelles entre le football féminin et le harcèlement. Et je suis très heureuse de vous rappeler que Saison des Roses chez Flubbelub, la deuxième BD publiée pour Chloé Vary, a reçu au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême le prix du public France Télé 2020. Ça claque ou pas ?
MDM ?
MDM.
Tout un monde.
Il est l'heure de retourner à Angoulême avec Chloé et Lucie.
Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
Et le fait d'être édité si jeune, comme ça, sur vos premiers projets, c'est quand même un fait rare. Comment vous l'avez accueilli ?
Du coup, c'est vrai que quand j'ai envoyé mon projet de diplôme, c'était vraiment par curiosité. Je m'attendais à ce que les éditeurs me fassent déjà un retour sur les quelques planches envoyées, sur ce qu'il aurait été pas mal de faire ou de modifier. Je ne pensais pas que ça pourrait plaire tel quel, donc ça a été vraiment hyper surprenant. Et en fait, ça a été super parce que ça m'a ouvert la porte de festivals, de rencontrer des gens professionnels et qui sont là depuis très longtemps. Et du coup, des gens qui vont commencer à te raconter comment ça se passe en tant qu'auteur, comment on vit. J'ai rencontré des auteurs hyper précaires et d'autres qui vivent de la BD depuis 20 ans et pour qui ça fonctionne. Et donc voilà, il y a beaucoup de disparités dans les auteurs et les autrices. Et en fait, le simple fait déjà de pouvoir exister et de sortir un livre, c'est énorme parce qu'il y a tellement de gens talentueux et de demandes pour peu de contrats signés que en fait de se faire publier c'est déjà top quoi. Mais après, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à produire, à cravacher, à démarcher aussi, quitte à se prendre des retours pas forcément cool, mais il ne faut pas abandonner. Et puis, il faut cibler aussi. C'est vrai qu'il y a des éditeurs plus accessibles que d'autres et qui sont à l'écoute. Donc, il faut savoir où on met les pieds aussi, quoi.
Ouais, c'est vrai que... Enfin, directement après l'école, on a fait la même formation en fait, avec Chloé, on a fait un DM à illustration et après une formation en bande dessinée. On est sorti en 2017 et on a décidé de se lancer directement et de pas continuer les études. Et en fait, les projets qu'on a fait pendant nos études, c'est les premiers projets qu'on a publiés. Et c'est vrai que on a eu de la chance. Et c'est vrai que publier aussi jeune, enfin. Du coup, c'est vrai qu'on peut comparer par rapport à d'autres et tout. Et des fois, on se demande pourquoi tout le monde ne se lance pas. Et en même temps, on le comprend très bien parce que c'est pas évident du tout. Et comme dit, il faut un petit peu cibler les personnes vers qui on envoie les projets, etc.
C'est ça, ouais. Et puis, je crois qu'il y a un truc de peut-être d'opportunité, je sais pas, qui se présente. Et puis, peut-être, il y a un truc à... avec soi aussi à un moment donné, c'est savoir si t'es prêt ou pas à te faire un peu juger par tout le monde quoi. Parce que mine de rien, quand tu sors ton truc, tout le monde va se permettre d'avoir un jugement dessus, alors que quand ça reste pour toi, c'est vrai qu'il y a cette satisfaction de simplement j'ai produit mon truc, je passe à autre chose, je suis content et puis ça reste pour moi. Et de se dire que ça sort dans le grand bain, c'est un peu violent parce qu'on peut se prendre des retours négatifs, comme on peut se prendre aussi plein d'encouragements. Mais c'est vrai que c'est une transition qui est pas facile et il faut être prêt à ça. Donc je sais pas si c'est une question de maturité, une question d'être préparé, d'opportunité. C'est un peu un mix de tout ça, je pense. Et je pense que Lucie et moi, après l'école, on avait envie de concrétiser des choses. On avait envie que tout ce qu'on conceptualise en cours, tous les projets qu'on fantasme et qu'on se dit « putain, je voudrais que ça sorte, nanana », après l'école, on s'est dit « il faut qu'on tente, il faut qu'on y aille parce qu'en fait, le temps passe trop vite et on se le rappelle tous les jours et on se dit « mais c'est pas possible, il faut faire des choses ». C'est comme ça, je pense, qu'on se sent un peu exister concrètement dans la vie, quoi, dans la société. Hein.
Ouais. En vrai, je pense que, comme elle disait, on était prêtes, on se sentait prêtes, c'était le bon moment. Et on était prêtes aussi à charbonner derrière, parce que c'est pas juste un truc qu'on envoie et ça se fait et c'est terminé. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Et moi, vraiment, ce qui m'a aidée à proposer mon projet que j'avais commencé à l'école à des éditeurs, c'est vraiment de voir que Chloé a sorti son premier bouquin, c'était le projet de diplôme de DMA, donc l'année d'avant. Et que là, ça marchait et que son autre projet avait des bons retours d'éditeurs, même avant d'être publié et tout. Et du coup, le fait qu'on bosse ensemble, ça aide à mort. Parce que je sais que toute seule, j'aurais peut-être déjà lâché l'affaire en me disant « bon, j'ai pas de réponse des éditeurs » ou alors « c'est un peu négatif, ça passe pas, en fait, la BD, c'est trop compliqué, je vais faire autre chose ». Mais là, le fait qu'on bosse toutes les deux, on bosse dans le même atelier, et on échange beaucoup, beaucoup sur nos projets, donc on s'envoie les scénarios avant, on se donne des conseils, etc. Moi, ça m'aide beaucoup de l'avoir réussir, quoi. Et je me dis, ok, c'est, c'est faisable, et juste ça prend du temps et il faut accepter que ça prend du temps et qu'on ne va pas en vivre là tout de suite maintenant et avoir un gros succès de ouf, même si mon Saison des Roses a bien fonctionné là, et on attend de voir ce qui va se passer à Angoulême pour cette BD.
Est-ce que vous êtes sélectionné pour le IN aussi, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est Saison des Roses, c'est la grosse surprise. Il fait partie des sélectionnés quoi, pour potentiellement avoir un fauve. Donc voilà, la cérémonie, c'est ce soir. On ne sait pas ce que ça va donner. Je me fais pas trop de films, mais c'est juste d'être dans la sélection, c'est incroyable.
Ça apporte une visibilité plutôt conséquente, non?
Oui, ouais, parce que t'as plein de libraires qui communiquent déjà. La sélection, elle sort en novembre. Donc t'as tout le mois de décembre pour communiquer dessus, et les libraires, ils ont leur petite pastille sélection Angoulême, donc forcément ça porte le bouquin, ça le fait rebondir, même parce que moi il est sorti en mai quand même, donc c'est un nouveau souffle pour le livre, donc c'est super. Je suis ravie déjà juste à ce stade là d'être sollicitée de cette manière là, ça fait plaisir, voilà.
Et donc vous avez abordé un petit peu tout à l'heure le fait de pouvoir vivre de ce métier, les conditions super rudes que ça implique aussi. Là, on a entendu parler de mouvements de grève dans le monde de l'illustration. Comment vous positionnez par rapport à ça en tant que jeune autrice, justement?
Ben, c'est vrai que moi, je suis pas trop au courant de tout ce qui se passe de base niveau politique et engagement, etc. Je suis pas trop au jus. Mais je sais qu'on est dans des conditions très précaires, que c'est une galère et que c'est vraiment difficile d'être
autonome,
rémunéré ou alors juste à juste valeur de notre travail, en fait, parce qu'on charbonne comme des fous. Et en fait, sous prétexte que c'est une passion et qu'on aime faire ça, on doit accepter des choses qui sont inacceptables dans d'autres métiers. Et c'est pas normal, en fait. Et voilà, on aimerait bien que ça change.
Avant, les auteurs étaient rémunérés à la page qu'ils faisaient. Donc, ils étaient rémunérés à leur production, à ce qu'ils produisaient concrètement. Une planche, c'était tant, quoi. Aujourd'hui, on est rémunéré sur un pourcentage de vente. Ça veut dire que t'auras beau faire ton bouquin, s'il se vend pas, tu touches pas tes droits d'auteur. Parce que voilà, donc on considère que si un livre ne se vend pas, c'est qu'il est raté. Alors que c'est complètement faux, c'est biaisé comme jugement. On touche à un avaloir, donc c'est une avance sur les droits d'auteur. Cette avance-là, en fait, elle est calculée sur le pourcentage de droits d'auteur qui t'est donné dès le début. Et tes droits d'auteur, tu les touches une fois que cet avaloir que tu as touché au début est compensé. Donc en fait, il y a beaucoup de contraintes quoi, avant de pouvoir vraiment toucher de l'argent, si tu en touches. Et du coup, c'est véritablement dégradant, en fait, pour notre métier. On est comme des ouvriers qui produisons avec le cœur, et donc on fait ça gentiment avec passion, donc on est animé par cette flamme, et du coup on a besoin de rien d'autre, mais en fait faut aussi qu'on se nourrisse, qu'on se loge et juste qu'on vive, donc c'est pas normal que notre métier soit aussi précaire, qu'il soit aussi peu protégé, que on n'ait pas de statut adapté en fait à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est un processus particulier et on peut pas généraliser notre statut ou le calquer sur quelque chose qui existe déjà. Il nous faut quelque chose d'adapté, et c'est vrai que depuis le début de l'année 2020 et grâce à Angoulême, on essaie de communiquer dessus pour que les choses avancent et que aussi les gens extérieurs prennent conscience de notre situation. Et voilà quoi, il y a eu une grève, déjà depuis le début du festival, tous les jours il y a des grèves. Flubble Up par exemple, ils ont fermé le stand depuis jeudi, ils ferment au moins 2 heures par jour pour soutenir les grévistes et les auteurs. Et hier, je crois que sur la place de l'Hôtel de Ville à Angoulême, on a rassemblé auteurs, éditeurs indépendants, tous les gens concernés par cette précarité. Il y avait plus de 1000 personnes autour de l'Hôtel de Ville. Donc c'est que quand même, pour Angoulême, c'est déjà énorme d'avoir autant de mouvements. Donc voilà, les choses sont en cours. J'espère qu'il y aura du concret, quoi. Voilà.
Et je juste rajouter un truc par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a énormément de sorties en fait, et que tout va très vite. Et c'est pas parce que un livre ne se vend pas qu'il est nul, c'est juste qu'il peut être étouffé par toutes les sorties et que en fait tout va trop vite. Et nous on bosse pendant 2 ans pour sortir un livre, et en fait il se retrouve quelques semaines en librairie, et après il y a les nouveautés, on doit l'enlever, et en fait ouais, il est oublié quoi. Et ouais, on a l'impression de travailler pour ouais, pour pas grand chose.
Pour soi, quoi.
Ouais, exactement. C'est plus un plaisir personnel. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont un autre métier à côté, parce que, enfin, juste auteur de BD, c'est vraiment difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué, quoi.
Merci beaucoup, les filles.
Merci à toi.
C'était donc Chloé Vary et Lucie Albrecht en direct du Spin-Off, le festival off de la bande dessinée d'Angoulême, en parallèle du Festival international de la BD qui se tient chaque année en cette même ville lors du dernier week-end du mois de janvier.